enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Lisez avec moi 1 Pierre 3. Et vous verrez qu'on va soulever un, voire deux ou trois ingrédients qui feront que nos vies voient des jours heureux. Il est marqué dans 1 Pierre 3, verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, nous y voilà, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1. 2. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Ésaïe 57, 14. 3. Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Des jours heureux. Mon thème sera vivre des jours heureux. Comment y parvenir? Premier point, il est très simple. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. La version de Kuhn est la chose suivante. Réfréner sa langue et ses lèvres. Comme si on mettait un mort à la bouche, comme un cheval. On freine ses lèvres, on freine sa bouche de paroles qu'elle pourrait prononcer malencontreusement. Voilà un secret pour voir des jours heureux. Vous suivez toujours? Alors, si vous voulez voir des jours heureux, oui, il faut la bénédiction de Dieu. Oui, il faut aimer Jésus. Oui, il faut aimer le prochain. Oui, il faut aimer le prochain. Et voilà comment: en réfrénant ta langue du mal et tes paroles et tes lèvres des paroles trompeuses. Mes amis, la parole a une puissance créatrice. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. Au commencement est-il marqué, était la parole. Et Dieu a créé ce monde par la parole. Que la lumière soit et la lumière. Il a suffi de la parole. Et mes amis, la vie nouvelle qui nous a été donnée en Jésus, elle est venue comment? Romains 10 dit, j'ai cru dans mon cœur et j'ai confessé de ma bouche. Et la vie du Christ est rentrée en moi. La parole qui est sur nos lèvres a une puissance créatrice. Elle peut faire du bien et elle peut faire du mal. Les mots qu'on entend, on ne les voit nulle part, ils sont invisibles. Et pourtant, des mots durs et terribles peuvent faire plus de mal qu'une bombe. Et vous le savez comme moi, n'est-ce pas? On se souvient de paroles terribles qu'on peut dire des parents à notre égard, ou un instit, ou un prof d'école, ou un copain qu'on estimait. Ces paroles nous ont fait du mal. Et c'est pourquoi, pour voir des jours heureux, est-il important de rééduquer notre façon de parler. Notre façon de parler et des autres, et de Dieu, et de nous-mêmes. Mes amis, il y a des choses que nous ne verrons pas dans notre vie chrétienne si nous ne rééduquons pas notre façon de parler. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mes amis, il y a un langage de la foi. Il est nécessaire de parler le langage de la foi. Joël 3, 10 dit que le faible dise. Hello. Es-tu faible? En ton cœur dit, je suis fort. Que le pauvre dise, Je suis riche, riche de Dieu. J'ai rien dans le porte-monnaie, mais je suis riche de Dieu. Amen. On peut hériter des pères et des mères, richesse et bienfaits. Mais sans la bénédiction de Dieu, vous n'avez pas grand-chose. Oui, vous avez un temps quelque chose, mais pas grand-chose, chose sur le long terme. Mais si vos parents ne vous donnent rien, mais s'ils vous donnent par contre la bénédiction de Dieu sur votre vie, quoi que vous fassiez, entrepreniez, tout vous réussit. Amen. Le langage de la foi, que le père, que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort », que le malade dise « je suis guéri ». Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Matthieu 5, 28. Récemment, ce texte m'a interpellé. On parle souvent de la foi de cette femme. Mais écoutez voir, cette foi-là, elle avait quelque part une traduction littérale sur le bord de ses lèvres. Lisons ensemble Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 28. Non, Marc 5, 28, pardon. Marc 5, 28. Cette femme a souffert depuis de nombreuses années. 12 ans qu'elle perd son sang. Elle est anémique. Elle est fragilisée, elle est faible. Elle a vu tous les médecins qu'elle a pu connaître et tout son patrimoine y est resté. Elle n'avait plus rien, plus de santé, plus d'argent, plus qu'une vague espérance en ce quelqu'un qui s'appelle Jésus et qu'elle avait entendu dire de lui qu'il avait guéri des malades. Et voilà qu'il arrive dans sa ville à elle. Et alors qu'il traverse la ville, qu'il est là entouré de la foule, il est dit une chose hyper importante que j'aimerais vous laisser dans votre cœur. Il est marqué au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, autrement dit, elle parlait à son âme. Elle disait, si seulement je pouvais toucher ses vêtements, alors je serais guéri. Si seulement je pouvais, elle le disait. Elle s'était dit, même s'il fallait que je rentre jusqu'à Jésus, mais si je le touche, je serai guéri. Elle disait dans son cœur, ce langage de la foi. Et parce qu'elle le disait, elle a obtenu gain de cause. Nous allons prier dans un instant pour les malades. Quel langage as-tu dans ton cœur? Il y en a d'autres qui se disent, « Oh, ça fait la 52e fois que j'y vais. Allons voir si ça marche. » Mon ami, si tu viens comme ça, rien ne se passera. Cette femme se disait, « Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, alors je serais guéri. » Elle parlait à son âme. Elle se parlait à elle-même. Et mes amis, j'aimerais vous dire qu'il est important de savoir rééduquer son âme, de parler à son âme. Il y a des fois où l'âme se parle à elle-même. Vous savez, les gens, des fois, on surprend en train de faire le balayage de la cour et on voit les lèvres parler à mi-voix, n'est-ce pas? Et on se parle et on se fait un film. J'avais une grand-mère que j'ai surpris X fois en train de faire le ménage. Et X fois, elle se parlait à elle-même. Elle avait des soucis avec son mari, et bien souvent, elle évacuait ses soucis en se parlant. Et j'écoutais des fois derrière la porte, en tant que petit schnappant, j'écoutais ce qu'elle disait. Et elle se faisait des films. Ah, si le monde, comme si, et si seulement. Et je lui aurais dit ça, et je lui aurais dit ça. Elle ne l'a jamais dit. Elle parlait à son âme. Elle se parlait. Mes amis, j'aimerais vous dire, David avait appris cela. Il avait appris à parler à son âme et à lui dire, maintenant tu m'obéis, tu obéis à mon esprit. Rappelez-vous David, le roi David. Il avait parlé à son âme de paroles d'espérance. Peut-être tu es là et tu es au fond du trou et ton langage intérieur est rempli de négativité. Ça ne marchera jamais. Oh, j'ai beau prier, Dieu ne réagit pas. Je prie, et ça va de mal en pis. Et tu as envie de dire, mais à quoi bon prier? Un jour, alors j'étais au fond du trou, intérieurement, j'étais vraiment au bout du rouleau, j'ai reçu un courrier qui m'a profondément incendié, mais qui m'a fait un bien fou. Parce qu'à la fin de ce texte était marquée une toute petite phrase issue de la sagesse populaire et qui disait « La vie continue ». Et je me suis dit « Mais c'est vrai, la vie continue !» Que je sois maintenant bien ou pas bien, la vie continue quand même. La vie continue quand même. Il y a un temps, c'est vrai, pour laisser libre cours à son amertume et à sa peine. Job 10, verset 1, c'est Job qui parle et qui dit « Mon âme est dégoûtée de la vie, j'en ai ras-le-bol de vivre. » Prends ses cours, hein. « Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Job 7, verset 11. Et Job 30, 16 répète la même chose. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. C'est Anne, la maman de Samuel le prophète, qui, parce qu'elle était stérile, souffrait intérieurement. Dans le temple de Jérusalem, elle priait en pleine nuit. Elle priait tellement en silence, mais les lèvres bougeaient. Mais elle titubait tellement la douleur était grande. Et voilà qu'arrive le grand prêtre et qu'il la prend pour une femme ivre. Et il la rabroue et elle dit « mais non, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu. » Mais dira-t-elle plus loin, « mais je répandais mon âme devant l'Éternel, mon cœur qui souffre, je le répandais devant Dieu. » Oui, il y a un temps dans la vie où il est bon de répandre son âme en pleurs et en gémissements et en plaintes devant Dieu. Mais il y a un temps aussi où il est important de se relever, de se ressaisir. Psaume 42, c'est David qui va dicter à son âme la conduite à suivre. Il est au fond du trou, il est abattu, il est déçu. Et voilà ce qu'il va dire. Psaume 42, versets 7, 12, 16. À trois reprises, il dira la chose suivante. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu? Mon âme, là-dedans, mon âme, pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu gémis? Et puis il rajoute derrière. Écoutez-moi ce qu'il rajoute. Espère en l'Éternel. Hello. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore, il est mon Dieu et mon salut. Mes amis, Dieu est plus grand que ma montagne de problèmes. Amen. Dieu est plus grand que mes journées, il est déjà dans mes demain et mes lendemains. Dieu est plus grand que mon problème, il est le Tout-Puissant, il est Adonai, il peut toutes choses. Alors c'est pourquoi mon âme espère en l'Éternel. Et il va rééduquer son âme et lui dit, maintenant tu vas espérer. Plus loin, au psaume 103, il dira la chose suivante, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, les soucis, les angoisses, les tracas, les mauvais sentiments, les rancunes, que tout ce qui est en moi, la joie aussi, bénisse son saint nom. Amen. Je suis persuadé qu'à ce moment-là, David n'avait pas envie de bénir Dieu. Mais il va ordonner à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Psaume 103, verset 22. Il répète, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Psaume 104, verset 1. « Mon âme, bénis l'Éternel. » Psaume 104, 35. « Mon âme, bénis l'Éternel. » Psaume 119, il dira, « Que mon âme vive et qu'elle te loue. » Psaume 34, vous le connaissez par cœur. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » En tout temps, ta louange sera sur ma bouche. Amen. 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 Alors, es-tu faible? Dis, je suis
pauvre.
Es-tu pauvre? Ruiné? T'as plus rien? Dis-le, je suis riche. Mon âme espère en l'Éternel. Mes amis, le fondement de ce langage à son âme est notre espérance en Dieu. On n'est pas là en train de faire un truc psychosomatique en appliquant la méthode Coué. C'est pas ça. Comme ce brave monsieur est allé voir un jour un thérapeute, un pneumothérapeute, un espèce de devin à la sauce moderne. Et puis il est arrivé et il voulait aussi recevoir une guérison physique. Alors il lui a dit, monsieur, voilà, je souffre de mon lombaire. Et le gars en face lui tend la main et lui dit, monsieur, dites trois fois, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Alors il l'a fait, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, mais souffrait encore. Puis à la fin, le monsieur en face lui dit, ça fait 500 francs. Ah bon, 500 francs. Alors à un moment donné, il le regarde en face, il lui prend la main et lui dit, monsieur, maintenant dites, je suis payé, je suis payé, je suis payé. C'est pas la méthode Coué qu'on appelle ici, c'est l'espérance en Dieu. Dieu est plus grand que mon problème. Mon âme, dira David, compte sur le Seigneur. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. On va rentrer dans une heure de cela, on va rentrer à la maison, on va aller dormir et chacun de nous, s'endort avec l'espérance, avec la ferme espérance que dans quelques heures, le matin va se lever. Et on est sûr que ça va arriver. On est parfaitement certain que si Dieu nous prête vie, demain matin, on va ouvrir les yeux et le soleil sera là. Amen. Et David dira, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes qui font la veille de la nuit ne comptent sur le matin qui se lève. Son espérance, c'est l'Éternel. Amen. Cette femme disait, elle disait dans son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Elle se le disait. Elle avait un langage conforme à la foi biblique. Et mes amis, grâce à cela, elle a vu sa guérison poindre à l'horizon. Amen. Quelqu'un veut-il voir des jours heureux ? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Préserver sa langue du mal, permettez-moi, avant de parler des lèvres trompeuses, permettez-moi un dernier petit point. Préserver sa langue du mal, c'est aussi préserver sa langue du mensonge, de la calomnie et de la médisance. Autrement dit, on se préserve de parler mal d'autrui. J'aimerais le dire, le répéter, on est à l'aube d'un nouveau millénaire, prenons des bonnes résolutions et appliquons-les à la lettre. Amen. Évitez la calomnie. Psaume 15, verset 3, du juste, il est dit, il ne calomnie point avec sa langue. Psaume 101, verset 5, David dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Intéressant, hein? Ce n'est pas forcément qu'il faut couper la tête à ceux qui font de la médisance. Mais ça veut dire que peut-être, lorsque j'entends des paroles médisantes, je coupe le récepteur. J'entends plus rien. Et à force de ne plus écouter l'autre médire, l'autre s'arrêtera tout seul de parler. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 31, c'est Paul qui dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, quelle qu'elle soit, disparaissent du milieu de vous. Et il parle là à l'Église. Colossiens 3, verset 8, pour enfoncer le clou, voilà ce qu'il dit. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses. Lesquelles, Paul ? À la colère. Pardon.
Pourquoi tu rigoles ?
Caroline, attention. Renoncez à l'animosité, renoncez à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Quelqu'un veut-il voir des jours heureux? Eh bien, qu'il préserve sa langue du mal et des paroles trompeuses. Et permettez-moi de conclure avec les paroles trompeuses. Un petit instant encore. Nous sommes invités par le Seigneur à tenir le langage de la vérité. On ne peut se réclamer de lui et tenir un langage de trompeur. Dans Ésaïe 53, verset 9, il est décrit un trait de caractère du Seigneur Jésus. Il est dit de lui que dans sa bouche, il n'y avait point de fraude. Autrement dit, ce qu'il disait, il le pensait vraiment. Ce qu'il disait, il le pensait. Il n'y avait pas d'entourloupe, il n'y avait pas de diplomatie forcément non plus des fois, n'est-ce pas? Ce qu'il disait, il le pensait. Et mes amis, nous sommes invités à devenir des hommes et des femmes qui ne trompent pas leur prochain, ni eux-mêmes, et encore moins Dieu. Autrement dit, que nous apprenions à avoir le langage de la vérité. Mes amis, tellement souvent, on est enclin à avoir le langage du mensonge, y compris à l'égard de nous-mêmes. À un moment donné, on est capable de se tromper nous-mêmes et de se trouver un tas de bonnes raisons pour les bêtises qu'on fait. Je suis persuadé que David, pendant un an, a dû trouver un tas de bons arguments pour résister à l'Esprit de Dieu et justifier ce qu'il venait de faire avec Bathsheba et son mari. Pendant tout un temps, il a dû argumenter et il s'est trompé lui-même. Et il a fallu que Dieu mette la lumière sur lui et qu'il soit au bout du rouleau pour qu'il dise « Enfin, ok Seigneur, c'est vrai, j'ai fauté. » Parfois, il est difficile, au bout de X années de vie chrétienne, de se rendre compte et de devoir affirmer « Oui, là, à ce point précis, j'ai vraiment fauté. Je demande pardon. » Parfois, c'est beaucoup plus simple en tant que jeune croyant. On arrive, on est tellement submergé par l'amour de Dieu. On se sait tellement sale que c'est comme évident. Mais quand on a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne et que tout à coup, il y a encore des choses qui montent à la surface, alors là, c'est beaucoup plus difficile de l'admettre. J'aimerais vous inviter cette fois-ci à vous dire « Seigneur, je reconnais. Ne vous trompez pas vous-même. On peut des fois vouloir cacher son péché, même en tant que croyant, oser avoir un langage vrai. Amen. » Par rapport au conflit avec des frères, osez là aussi avoir un langage vrai. Avez-vous avec un frère un conflit, j'aimerais vous inviter à tenir le langage de la vérité dans l'amour. Allez le trouver. Allez le voir, priez avant pour, mais je vous en supplie de grâce, allez voir ceux avec qui vous avez des conflits. Parfois on développe une espèce de sacro-sainte attitude qui est tout spirituelle, c'est celle de tout ruminer, de tout avaler, de tout prendre sur soi. Mais à la fin, ça fait des nœuds à l'estomac. On a des gens malades. Jésus nous encourage, quand nous avons des conflits, à aller trouver le frère ou la sœur et de lui tenir le langage de l'amour et de lui dire « Qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? Dis-moi ce que tu as voulu dire. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as voulu dire, ce que j'ai compris ? Et il suffit alors que le frère vous éclaire que ce qu'il a voulu dire est-elle content de ce que vous avez compris ? Et tout s'éclaire déjà, n'est-ce pas ? Et vous aurez beaucoup moins de nœuds à l'estomac et beaucoup moins de cauchemars la nuit. Enfin, j'aimerais peut-être vous dire la chose suivante. Soyez droit dans les affaires. C'est très direct ce que je dis là, mais soyez droit dans les affaires. Soyez droit avec Dieu. Soyez droit avec votre prochain. Soyez droit dans vos affaires commerciales. Soyez droit dans les affaires familiales. Soyez droit. Jacob est pour nous là un exemple flagrant de manque de droiture. Oui, il est appelé par Dieu. Oui, il a une destinée particulière de la part de Dieu sur sa vie. Mais Jacob est aussi un tordu. Eh oui, chrétien mais tordu. Voilà. Étonnant, n'est-ce pas? Mais Jacob, il sent les choses de Dieu, il connaît les choses de Dieu, mais en même temps, il a du mal à marcher droit. Et avec sa maman, il monte une manigance. Quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Ils vont tromper Isaac, ils vont tromper le père. Et Isaac va bénir Jacob. Mais à cause de cela, il a dû fuir au loin. Il avait trompé Jacob. Voyez-vous, mes amis, la roue tourne. La roue tourne toujours. Et tôt ou tard, c'est l'arroseur qui se trouve arrosé. Et voilà que quelques années plus tard, 7 ans plus tard à peine, 7 ans plus tard, alors qu'il était fin amoureux de Rachel, la cadette de Laban, voilà que Laban le roule littéralement dans la farine en lui filant l'aîné, Léa. Et le matin, donc, il se marie en toute bonne conscience, et le matin, il se réveille. Oh ! Qui c'est celle-là ? La grande sœur. Et voilà ce que Jacob va dire. Alors, Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Mes amis, la roue tourne. On peut un temps manger de ce pain-là, mais tôt ou tard, on se prend les retours de manivelle. Soyez droit en affaires, quitte pendant un temps de perdre, quitte à perdre au départ. Avec le long terme, vous gagnez en restant droit en affaires. Amen. Quelles que soient les affaires, commerciales, privées, familiales, dans l'église, soyez droit. Amen. Terminons par cette prière de David, psaume 17, verset 1. Lisons ensemble. Un verset qui m'a beaucoup parlé et qui m'a impressionné par sa teneur. Psaume 17, verset 1. Prière de David. Et il parle à Dieu en disant, écoute. Écoute quoi? Écoute la droiture. Posez-vous la question, pourriez-vous dire ça à la place de David? Seigneur, écoute ma droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Waouh! Et puis ça continue comme ça. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Ah ben Seigneur, hein? Et puis je arrêterai le verset 3 en disant, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Moi, je crois, bien-aimé, que Dieu peut exaucer ce genre de vie de prière. Où non seulement il y a l'attitude, on a la foi pour, comme cette femme qui s'approchait de Jésus par derrière et qui disait, si seulement je pouvais le toucher, mais qui en même temps apportait cette disposition du cœur qui était droit, sans fraude, qui était intègre. Quel self-control chez David. Non seulement il savait retenir sa bouche, mais sa bouche ne disait pas autre chose que ce que sa pensée formulait en son esprit. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà un but à atteindre cette année pour chacune de nos vies. Je vous le soumets simplement et je vous rappelle cette question du départ. Qui d'entre vous veut voir des jours heureux? Il y en a beaucoup moins du coup. Voilà. Tout ce monde là. Eh bien, premier ingrédient, et je m'arrêterai vraiment là, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen.
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 Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.